Bonjour à tous et à toutes, il est 18h et tout de suite c'est Première Page sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Non, c'est pas vrai!
Qu'est-ce que tu dis?
Maman ne m'a pas puni, tu n'as pas bien écrit.
Qui t'a dit comme t'avais puni?
C'est écrit là!
Voyons, voyons, mais... Tu sais lire?
Oui.
Première page, c'est la chronique littéraire pour lecteurs décomplexés. Un vendredi sur deux, à 18h sur Radio Campus Paris. Dans ce 8e épisode, le théâtre est à l'honneur avec Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Lorsqu'un homme à l'apparence atypique tombe amoureux d'une jeune précieuse, c'est le début d'un récit tragique, poétique et profondément romantique. Je m'appelle Louisa Georges et vous écoutez le 8e épisode de Première Page, un vendredi sur deux, à 18h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Je ne veux plus que Marcel rentre dans une classe, ni même ouvre un livre, avant l'âge de 6 ans. Laisse-le encore un peu.
Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Même si cette réplique n'est pas celle qui m'a le plus marquée, elle devrait faire écho en vous, tant la tirade a imprégné la culture populaire. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais je parle très rarement de théâtre. Ce n'est pas pour rien si la première pièce ne tombe qu'au 8e épisode. Si j'ai pratiqué cette activité pendant de nombreuses années, j'avoue préférer être sur scène que dans le public. Mais la pièce d'aujourd'hui fait exception et incarne l'œuvre de toutes les premières fois. Le premier vrai classique apprécié, mon premier spectacle à la Comédie Française, mes premières larmes au théâtre. Dans cet épisode, la pièce sera à l'honneur, mais nous parlerons également de ses nombreuses adaptations. Car tout ce qui découle de cette histoire semble toucher de l'or. Bon, croisons les doigts pour que d'ici la parution de cet épisode, Netflix n'ait pas produit une énième adaptation bancale transposant Cyrano dans un lycée en Floride. Je pense notamment à l'adaptation des Liaisons dangereuses de Rachel Suissa, parue en 2022. Si vous avez la référence, je suis désolée pour vous et votre temps perdu. Après des années de théâtre, incarner Cyrano a toujours été mon but ultime. Bon, malheureusement, on me fait comprendre que si je dois un jour jouer dans cette pièce, ce sera pour interpréter Roxane, alias le pire rôle féminin ever. Mais bon, je mise sur nos avancées sociales pour réaliser un jour mon rêve sur scène. Enfin, pour sublimer cette période de fête, je tenais à vous réserver l'une de mes plus belles découvertes littéraires. L'épisode du jour est dédié à Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. C'est sûrement l'une des pièces françaises les plus célèbres. Représentée pour la première fois le 28 décembre 1897 au Théâtre de la Porte Saint-Martin, à Paris, on doit cette œuvre à l'écrivain, dramaturge, poète et essayiste français Edmond Rostand. Né en 1868 à Marseille et mort le 2 décembre 1918 à Paris, notre auteur n'est pas à sa première production littéraire. Il écrira notamment de nombreux poèmes ainsi que plusieurs essais et connaîtra un certain succès pour ses pièces L'Aiglon et Chanteclair. Mais c'est bien Cyrano de Bergerac qui lui permettra d'entrer dans la postérité. Dès la première, c'est un triomphe. Pourtant, au moment de sa parution, la France traverse une période trouble. Attentats anarchistes, début de l'affaire Dreyfus, scandale politique. Au théâtre, c'est le temps du réalisme et du naturalisme porté par des auteurs scandinaves comme Tchekhov. De plus, au cours de l'écriture de sa pièce, Edmond Rostand est traversé par d'importantes phases de dépression. Son œuvre verra finalement le jour grâce au soutien financier de son épouse Rosemonde Gérard et du futur comédien phare de la pièce, Constant Coquelin, qui l'encourage notamment à se tourner vers le théâtre de la Porte Saint-Martin, la Comédie Française ne prévoyant pas de représentation avant 2 ou 3 ans. Ainsi, au moment de sa sortie, rien ne laissait envisager le succès de la pièce. Un héros inconnu, une pièce particulièrement longue avec 5 actes, entièrement écrite en vers quand la prose domine dans le milieu. Et pourtant, dès la première représentation, le premier acte compte déjà 9 rappels, auxquels assiste directement le dramaturge, grimé en mousquetaire parmi les figurants. Face à un public français, toujours hanté par la perte de l'Alsace-Lorraine, Cyrano est adulé pour son panache et son courage. Ce drame historique se présente comme un regain de romantisme pour la nation. Le 1er janvier 1898, Rostan est fait officiellement chevalier de l'ordre et en 1900, il est élu à l'Académie française. La pièce est jouée 400 fois de décembre 1897 à mars 1899 et atteint le 1000e en 1913. Pour la seule année 1898, la pièce rapporte une recette de 2 286 000 francs, un chiffre d'affaires jamais atteint pour un théâtre. La pièce connaît de nombreuses éditions et est traduite dans quasiment toutes les langues. Comédie musicale, opéra, film, comédie lyrique, l'œuvre ne cesse d'être réinventée et notre personnage est une référence, y compris pour les moins friands du 6e art. Le succès est extraordinaire quand on sait que l'auteur se serait excusé auprès de ses comédiens avant le lever de rideau, inquiet par l'imminence du fiasco. Cyrano de Bergerac, ça parle de quoi ? Difficile de résumer cette œuvre, tant Edmond Rostand a mélangé les genres et les références. L'essentiel de la pièce repose sur un trio amoureux. Cyrano de Bergerac, dans un premier temps, est le personnage principal. Si ce dernier est surtout connu pour la proéminence de son nez, le dramaturge le fait surtout briller pour ses qualités humaines. Notre héros est l'incarnation de la bravoure, du courage et de l'honneur. Combattant au cadet de Gascogne, il porte l'épée et le chapeau des mousquetaires, rappelant un héros de la Commedia dell'arte. En effet, sur scène, tous les protagonistes semblent sortir d'un roman de cap et d'épée. En réalité, l'intrigue ne se déroule pas à l'époque de notre auteur, mais dans le Paris du XVIIe siècle. Pour écrire son personnage, le dramaturge s'inspire de son expérience personnelle, mais surtout de Savinien de Cyrano de Bergerac, écrivain français du XVIIe siècle. Si les deux hommes sont loin d'être identiques, ils partagent au moins l'amour des belles lettres. Se qualifiant de poète, le jeune Gascon est connu et respecté pour sa maîtrise du verbe. Certaines de ses tirades sont d'ailleurs mythiques, comme celle du nez, citée plus haut, ou du non-merci, dont je vous parlerai plus tard. Ensuite, il y a Roxane, jeune femme cultivée, cousine de Cyrano, dont ce dernier est amoureux. Elle est inspirée de la cousine de Savinien et de Marie de Robineau, grande amie de Madeleine de Scudéry, femme de lettres célèbre, pilier du mouvement précieux. Roxane est également une précieuse. La préciosité étant un mouvement et une mode littéraire française du XVIIe siècle, visant à raffiner les mœurs et la langue française. Enfin, il y a Christian. Lui aussi est amoureux de Roxane, mais contrairement à Cyrano, ce dernier ne peut compter que sur ses charmes physiques. S'exprimant comme un sot, il n'est pas à la hauteur pour prétendre à séduire la cousine de notre héros. Il est inspiré du baron de Neuvillette, qui a lui réellement épousé une cousine de Savinien. Lorsque Cyrano fait la rencontre de ce jeune premier chez les cadets de Gascogne, nous sommes à l'acte 2. Tous deux se confrontent avec une joute verbale face à laquelle notre poète s'incline, offrant son respect à ce nouveau compagnon. Ce dernier fait part à notre héros de sa difficulté à s'exprimer face à la jeune précieuse. Cyrano propose alors d'offrir son aide en prêtant ses mots, bénéficiant en même temps de la proximité avec Roxane. Les deux acolytes signent alors un pacte, mais les sentiments de notre héros restent sous silence. S'ensuivent de nombreux rebondissements mettant en scène nos 3 personnages, un certain nombre de seconds rôles et une multitude de figurants offrant un large panel de ce que le théâtre peut offrir. Drame historique, tragédie classique, comédie héroïque, les critiques se disputent pour catégoriser cette pièce, mais impossible de s'entendre tant notre dramaturge brise les codes, faisant de cette œuvre une ode au théâtre dans toute sa diversité. Mais alors, pourquoi ai-je tant aimé cette pièce ? Lorsque l'on met le livre entre mes mains, j'ai 17 ans. L'œuvre est au programme du bac français, donc je suis assez vite réfractaire. Quand je lis le livre, l'histoire me touche assez vite. Ce triangle amoureux, l'injustice de cet homme qui reste figurant dans cette histoire d'amour, sa générosité auprès de cet homme qui parvient à obtenir ce qu'il désire sans même lever le petit doigt, je comprends vite le potentiel dramatique et émouvant. Mais j'avoue que la seule lecture du livre n'aurait pas suffi à provoquer une telle émotion en moi. Non, la vraie révélation arrive lors de la diffusion en classe de la version cinématographique de l'œuvre par Jean-Paul Rappeneau. Cyrano y est incarné par Gérard Depardieu, Vincent Pérez joue Christian et Roxane est interprétée par Anne Brochet. Et là, c'est le drame. Ajoutez au récit un beau casting, des décors, des costumes, une bande originale fabuleuse que l'on doit à Jean-Claude Petit. Et nous y sommes. Je suis bouleversée. Comme quoi, je ne le dirai jamais assez, ne condamnez jamais une œuvre sans donner une chance à ses différentes adaptations. Ce qui est fascinant dans Cyrano de Bergerac, c'est la diversité des genres théâtraux. Si la pièce est longue, on voit les personnages évoluer sur scène comme dans un long film historique. Les rebondissements sont nombreux et les changements d'ambiance quasi permanents. On passe du drame au comique, de l'intime à la foule, de dialogue aux multiples personnages à de longs monologues poétiques. De plus, la mise en scène est complète et participe à l'envergure épique du récit. Reconstitution d'une pièce de théâtre, scène de combat à l'épée, on est transporté par le rythme et on ne trouve pas le temps de s'ennuyer. Même si je vous parle ici d'une expérience de spectatrice, lisez la version papier pour savourer la beauté des vers. L'auteur alterne entre le familier et le soutenu, le texte est tout à fait accessible et le mélange des genres est surprenant et bien amené. Enfin, en tant que grande romantique, je ne suis pas insensible à la beauté des mots et aux liens qui unissent nos trois personnages et les enjeux de leur rôle. Car si cette pièce est bouleversante, c'est bien pour le rôle à la fois de marionnettiste et de spectateur incarné par notre héros. Si ce dernier parvient directement à séduire Roxane, les vers ne suffisent plus, et il ne peut que subir tristement sa condition, rattrapé par sa honte et sa timidité. Pour mieux vous faire comprendre ce qui me transcende dans cette pièce, j'aimerais insister sur ce qui reste à mon sens le plus beau passage de l'œuvre. Cette scène, qui a eu le mérite de me faire pleurer un certain nombre de fois, est celle du balcon, acte 3, scène 7. Clairement inspirée de la scène mythique de Roméo et Juliette, Edmond Rostand transforme cette romance, livrant l'une des plus belles scènes romantiques qu'il m'ait été amené de voir. Le déroulé de l'action est assez simple. Christian veut faire la cour à Roxane, du haut de son balcon, mais ne sait pas s'y prendre. Cyrano, caché sous l'avancée, dicte tout bas à son acolyte les vers qui seront séduire sa promise. Mais le jeune homme peine à entendre les mots de son instructeur et finit par se retirer, laissant notre héros déclarer sa flamme, cachée par l'obscurité de la nuit et dissimulée derrière l'identité du bien-aimé. Dupée, Roxane pense entendre l'homme qui l'a séduite au premier regard. Mais ici, ce sont bien les mots qui l'emportent sur les apparences. Cyrano, accablé, se dévoile à mi-mot sans jamais révéler son identité. S'ensuit une déclaration d'amour déchirante dans laquelle ce dernier témoigne bouleversé de l'impasse de cette conquête. Si le texte est renversant, la scène prend toute son envergure dans l'adaptation de Rappeneau, dont je vous recommande vivement le visionnage sur YouTube. À défaut de pouvoir le jouer sur les planches, voici à mon goût l'une des plus belles répliques de cette scène, adressée à Roxane par Cyrano. Comprends-tu à présent? Voyant, te rends-tu compte? Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte? Oh mais vraiment ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela, vous m'écoutez, moi, vous, c'est trop. Dans mon espoir même le moins modeste, je n'ai jamais espéré tant. Il ne me reste qu'à mourir maintenant. C'était un extrait de Rick Honor du groupe Radiohead. Vous écoutez Première Page, une chronique littéraire pour lecteurs décomplexés sur Radio Campus Paris 93.9 FM. L'épisode du jour porte sur la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Au-delà de toute sensibilité théâtrale, si je dois vous recommander cette œuvre, c'est surtout pour son personnage éponyme. Au-delà des enjeux de beauté intérieure ou extérieure qui restent le fil conducteur de la relation des trois protagonistes, le rôle principal se démarque par la complexité de sa composition et par le regard qu'il porte sur le monde. Tout comme l'écrivain qui a influencé sa création, Cyrano est un libertin. Avant d'être résumé pour sa vision de la sexualité, le libertin est surtout un adepte de la liberté de penser, qui se permet de s'écarter des normes culturelles, intellectuelles ou morales de son temps. Notre héros est un idéaliste. La plus belle démonstration de son insoumission reste pour moi la tirade du non-merci, dans laquelle ce dernier fait part de son refus de s'engager pour les mousquetaires et sa volonté de garder son indépendance. La tirade est bouleversante tant celui qui la déclame semble tiraillé entre son désir de liberté et les réalités de son monde. Cyrano de Bergerac est un homme de contradiction. Figure virile, brave, courageux, charismatique, il est également d'une grande timidité et témoigne de sa sensibilité aux belles lettres et aux bons sentiments. La complexité de ce dernier en fait le héros romantique par excellence, alliant le pathétique et le sublime. Pour notre poète, les désillusions sont nombreuses. Sa bravoure, son honneur lui donnent alors certains côtés sacrificiels, nous donnant parfois l'envie de le secouer. Mais malheureusement, c'est bien là que réside toute sa puissance et sa beauté. Enfin, je vous recommande de découvrir cette œuvre pour l'expérience extraordinaire de la découvrir un jour sur scène. J'ai eu la chance de recevoir une place à mes 18 ans, découvrant ainsi la pièce à la Comédie-Française, avec l'adaptation de Denis Podalydès étant alors la version la plus proche du texte original. Alors oui, 3 heures de théâtre, c'est long. Mais découvrir la beauté des lieux, les costumes, les décors, être traversé par les émotions des comédiens, être subjugué par leurs talents, et surtout, découvrir le Cyrano de Michel Villermoz, sublimé par une mise en scène magique, je vous souhaite à tous et à toutes de vivre un jour une telle expérience théâtrale. Pour la petite anecdote, 8 ans après cette représentation, je suis tombée tout à fait par hasard sur Monsieur Villermoz qui était venu faire ses achats dans l'enseigne pour laquelle je travaille. Il était encore difficile de contenir mon émotion tant cette expérience m'a marquée. Comme toute groupie qui se respecte, je suis venue lui parler sans trop savoir par quoi commencer. Je lui ai dit que je l'avais vu jouer Cyrano sur scène. Il m'a demandé si ça m'avait plu. J'ai acquiescé et je l'ai remercié. Merci Monsieur Rostand. 8 ans plus tard, rien n'avait changé. Bonne fête à tous et à l'année prochaine. Pour aller plus loin, je recommande Edmond, pièce datée de 2018 de Alexis Michalik, retraçant avec certaines libertés la fin de l'élaboration de la pièce par le dramaturge, l'adaptation cinématographique de Cyrano de Bergerac par Jean-Paul Rappeneau, paru en 1990, et bien sûr, de découvrir l'œuvre sur scène pour donner une fois dans sa vie une chance au 6e art. C'était le 8e et dernier épisode de l'année 2022. Rendez-vous dans 15 jours, même heure, pour une prochaine lecture sur Radio Campus Paris 93.9 FM.